Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Mes bons amis, bienvenue Place du Marché. Nous allons débattre aujourd'hui d'une mesure qui touche à la vie scolaire française et qui fait beaucoup parler d'elle depuis la rentrée. Je veux parler de la journée sans viande dans les cantines. Alors autour de moi, plusieurs acteurs et commentateurs pour expliquer dans quel esprit a été prise cette mesure et ce qu'elle implique dans la vie quotidienne de nos petits et bien entendu son impact pour notre environnement. Alors j'ai demandé à mon ami Jean-Marie Bordry, qui est journaliste et présentateur ici même.
Bonjour Vincent.
Radio. Bonjour Jean-Marie. De nous faire déjà un petit état des lieux sur cette soi-disant mesure.
C'est une mesure, techniquement, c'est ce qui est écrit dans la loi, hein, noir sur blanc. Toutes les cantines dans toute la France seront obligées de proposer une fois par semaine un menu végétarien. J'ai bien dit végétarien, ça veut dire qu'il pourra y avoir des protéines animales, par exemple, ça peut être du lait ou des œufs.
Mais
ça,
pas, c'est de la chair.
Voilà.
Pas de la chair animale.
Pas de la chair. Ça, c'est la théorie, c'est ce qui est écrit dans la loi. Ça a été une demande notamment d'associations et puis les députés qui ont voté cet amendement qui a fini par passer. Greenpeace, par exemple, plaidait pour le fait effectivement qu'on puisse avoir des repas sans viande à la cantine parce que on a une consommation de viande trop importante selon l'association en France et que c'est pas soutenable.
Mais ça c'est du déclaratif en quelque sorte. C'est passé au journal officiel quand même.
Mais la loi elle est promulguée. Le seul problème c'est qu'il y a marqué toutes les cantines sont tenues une fois par semaine de proposer ce menu. Mais pour savoir ce qu'on risque quand on ne la respecte pas, il faut un décret d'application. Il se fait toujours attendre, il est en retard et a priori d'ailleurs on ne le voit toujours pas venir. Du coup, et ça c'est l'information Sud Radio. On a appelé plusieurs maires de France, des maires ruraux, des maires de grandes villes. Les maires ruraux, un certain nombre, ne sont pas du tout au courant. Ah bon, on est obligé, mais ma cantine, on n'est pas prêt et on ne va pas le faire. Il n'y a pas de raison. On a déjà un menu avec du poisson. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. On a appelé ensuite la principale association, c'est l'Association des maires de France. Et là, on est catégorique. Isabelle Mention, c'est la vice-présidente de l'AMF. Elle nous dit, écoutez, oui, mais a priori, on ne sait pas trop ce qu'on risque. On devrait pouvoir s'en sortir quand on propose un menu avec du poisson une fois par semaine, alors que techniquement, ce n'est pas ce qui est prévu dans la loi.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que s'il n'y a pas de radar sur le bord de la route, personne ne freine.
C'est ça. C'est-à-dire qu'un certain nombre de maires, en tout cas, n'ont pas prévu d'appliquer cette loi, tout simplement.
Voilà, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas punis. Alors, je vais passer un petit coup de fil tout de suite, Jean-Marie, avant de vous présenter les invités qui sont autour de cette table. Un acteur de cette mesure, c'est Rodrigo Arenas, le coprésident de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Bonjour, Rodrigo.
Bonjour.
Quand je dis que vous avez été un peu à l'origine avec d'autres associations, c'est vrai que vous l'avez souhaité très fort, cette journée végétarienne à la cantine.
Oui, c'est exact.
Et pour quelle raison?
Ben, on l'a souhaité d'abord parce qu'il n'a échappé à personne qu'il y a des vrais enjeux environnementaux aujourd'hui qui traversent notre pays et la planète et que précisément le repas végétarien est aussi la réponse à la lutte contre le réchauffement climatique, notamment parce qu'on sait aujourd'hui, la science le dit, que la production de viande aujourd'hui est un facteur qui va dans ce sens-là.
Des raisons sanitaires aussi, j'imagine.
Vous avez des raisons sanitaires, vous avez plein de raisons aussi, notamment liées à la question de la souffrance animale auxquelles nos enfants sont de plus en plus sensibles, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est aussi parce que les habitudes alimentaires ont aussi évolué. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de parents sont interpellés, soit par leurs enfants, soit eux-mêmes, sur des repas différenciés qui ne trouvent pas la place à la cantine. Et il est très difficile, aujourd'hui en France, d'avoir des enfants qui puissent manger comme ils ont envie de manger.
Oui, mais
forcément de manger de la viande, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas un problème de santé.
Quand on dit ça, est-ce qu'il n'y a pas sous-jacent, en filigrane, un certain communautarisme, en tout cas un risque de dérive communautariste dans l'alimentation?
Ah non, alors pas du tout, pas pour la FCPE. On ne partage absolument pas l'avis que tout à coup le repas végétarien et le repas laïque, ça n'a absolument aucun rapport. Je sais que c'est un argument qui est utilisé par un certain nombre de personnes, mais ce n'est pas celui de la FCPE en tout cas. Soyons
d'accord, mais ça existe quand même. Il y a toute une partie de la population et des parents d'élèves qui militent pour un repas végétarien parce que ils ne trouvent pas, on va dire, les produits carnés en accord avec leur philosophie ou leur religion.
Vous avez raison, il y a des pressions qui sont dans certaines communes, mais en tout cas, ce n'est pas la position de notre fédération.
D'accord.
Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ce qui est vrai, par contre, c'est que dans certains quartiers de notre pays, en fait, là où des populations qui sont plutôt soit halal, soit kasher, soit qui ont des comportements alimentaires qui sont liés à leurs préférences confessionnelles, font en sorte que ce repas vienne parce que ça permet aux enfants de manger. Et c'est vrai qu'il y a des hausses de fréquentation d'enfants dans ces quartiers-là. Mais pour autant, ce n'est pas le bon argument. Le bon argument, c'est de se dire qu'il y a aujourd'hui, il y a des enfants qui mangent de façon différente.
Oui.
Et que quelles que soient les motivations, il faut pouvoir proposer cette offre et ce choix. Et le choix, aujourd'hui, n'existe pas. C'est-à-dire que le choix se fait à l'envers. C'est-à-dire que des enfants qui ne mangent pas de viande, en fait, sont obligés d'en manger parce que, précisément, c'est ce qu'on leur présente tous les jours. Donc,
d'accord.
La question, ce n'est pas...
Enfin, il suffit de manger les légumes et de laisser la viande, hein, au demeurant.
Alors, c'est pas si évident que ça, parce que vous avez aussi dans des écoles où quand les enfants mangent pas de viande, en fait, ils sont soit un peu stigmatisés, mais dans le bon sens du terme,
ouais,
en disant, vas-y,
oui,
mange, c'est pas
sûr,
grave, t'as pas peur du mal.
Oui.
Et c'est surtout parce que, comme vous l'avez dit par rapport au maire, c'est que les adultes ne comprennent pas ce changement de comportement alimentaire,
oui,
qui aujourd'hui doit être au cœur des choses. Alors, ils le font parfois d'ailleurs de bonne foi, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les équipements et notamment les cuisiniers ou les personnels pour pouvoir produire ces produits-là, parce que ça doit être des repas qui soient évidemment de qualité, qui soient goûtus. Il s'agit pas de balancer des végétaux comme ça dans une assiette. Ça se prépare, c'est un métier.
Ah, on le sait, hein, la cuisine, c'est même un beau métier.
Et ça, c'est un coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, la question de la formation des cuisiniers et du personnel qui aide, notamment les commis, doit être renforcée dans ce sens-là, parce que simplement, manger des végétaux, d'abord, c'est pas mauvais pour la santé, au contraire, pour certains profils alimentaires de notre population. Et puis, en fait, ça existe, en fait, dans beaucoup de pays. Vous avez des régions, par exemple, en Inde, où on mange des végétaux exclusivement, et ça les rend pas plus malades. La question pour nous, c'est de tordre le cou aux idées reçues. C'est de tordre le cou à l'idée que si on mange pas de viande, on va être malade.
Rodrigo, on va pas faire le lit du véganisme. Hein, on peut parler...
Ah non, pas du tout.
Là il s'agit de végétarisme. Hein, c'est-à-dire, en
absolument,
tout cas pour ce qui concerne l'école, c'est de la protéine animale tant que ce n'est pas de la chair d'abattage. Hein, on est d'accord?
C'est-à-dire que les apports en protéines peuvent tout à fait venir des végétaux. La question, c'est la différenciation alimentaire. C'est de proposer le choix et de proposer les alternatives. Parce que nos enfants sont déjà, en fait, en avance sur les parents, et et c'est notre rôle aussi de leur proposer de pouvoir manger,
oui, mais...
comme ils voient les choses aussi.
Mais Rodrigo Arenas, aujourd'hui, on l'a compris à travers ce que disait Jean-Marie Bordry à l'instant, les maires ne vont pas appliquer parce qu'il n'y a pas de décret d'application. Certains. Alors, quelle action va être menée par les parents d'élèves de la FCPE?
Bah, nous, en fait, on n'est pas dans un truc coercitif de mettre les gens au tribunal, on n'est pas là-dedans. C'est, il y a une question d'éducative qui se met en place, évidemment.
Donc vous allez laisser faire, en fait.
Mais c'est pas qu'on va laisser faire, c'est qu'on va... D'abord, on a écrit à l'ensemble des maires de France, avec l'AVF et avec Rétis, pour qu'ils soient au courant de cette loi. C'est-à-dire que la première des étapes, c'est l'information. C'est-à-dire que quand on soit adulte ou qu'on soit enfant, il faut expliquer que, un, c'est pas dangereux, et que, deux, c'est bon, pour y compris pour eux, parce qu'on a vu dans les grandes villes que ça fait baisser le prix de l'assiette.
Rodrigo Arenas, nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est le principe de base, c'est écrit dans la loi que toutes les cantines sont censées en servir une fois par semaine. Pourtant, il y a plein de maires qui vous disent qu'ils le feront pas. Donc qu'est-ce que vous allez faire ?
Bah nous, ce qu'on dit aux parents, nous, on n'a pas vocation à mettre les maires au tribunal parce qu'ils ne mettent pas des repas végétariens, soyons réalistes.
Non, mais alors là, vous en sortiriez pas.
C'est pas la bonne méthode, parce que ça braque les gens, et c'est un processus, il faut aller vers ça. Voilà. En revanche, par contre, quand vous avez des parents qui, eux, souhaitent absolument qu'il y ait un repas végétarien proposé une fois par semaine, au choix d'ailleurs, hein, c'est pas végétarien ou rien, c'est et végétarien et carné, c'est un choix qui doit être proposé.
Ah, ça, c'est important.
Donc, l'alternative, il faut que les maires le fassent, et ils savent que ces parents-là, s'ils sont suffisamment nombreux et suffisamment organisés pour cela, ils peuvent tout à fait imposer ce choix-là, parce que c'est un choix qui est fait par les usagers. Et là, il y a un cadre légal qui contraint.
Merci.
Et qui peut effectivement aller plus loin. Et nous, évidemment, nous soutiendrons les parents qui vont là-dessus.
Merci Rodrigo Arenas. Le temps court,
merci
le temps court. Et vous êtes tellement éloquent, hein, on le sait bien, hein, mais on adore vous entendre parler. Co-président de la FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves, on aura dans un instant Laurent Gaillard, qui est coordinateur du collectif Cantine Verte, qui vous répondra sur certains points qui touchent à l'écologie. On aura avec nous Diane Rousseau, nutritionniste et responsable de l'offre chez Scolarest, qui est un acteur majeur de la restauration scolaire ici en France. Et puis on aura avec nous également notre ami Éric Birlouez, qui est alors sociologue mais spécialiste de l'alimentation. Et avec ces trois-là, croyez-moi, on va vous bâtir une émission où on va essayer de tout comprendre, jeter les enjeux comme ça sur la table, faire le tri et vous trouver des solutions. Allez, on se retrouve dans une minute.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Fernio.
Mes amis, une émission déjà bien animée dans cette première partie autour d'une question qui déclenche évidemment des réactions multiples, hein, puisque nous sommes tous concernés, puisqu'il s'agit du repas végétarien à l'école. Et l'école, bah, ça nous touche tous. Hein. Nos petits, nos petits-enfants, eh bien, ça nous soucie de savoir ce qu'ils vont consommer parce que c'est l'avenir de notre planète également. Donc, il y a des vues écologiques, et ça, on va en parler. Il y a des vues sociologiques, on va en parler, des comportements et même des vues sanitaires. Est-ce que c'est bon pour la santé, la viande? Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Est-ce qu'il y a des manques? On va essayer de tout décrypter. Autour de cette table, j'ai avec moi Éric Birlouez, qui est sociologue spécialiste de l'alimentation. Bonjour Éric.
Bonjour.
Je vais présenter ceux qui sont avec nous également. Laurent Gaillard, coordinateur du collectif Cantine Verte 78, donc dans les Yvelines.
Bonjour Vincent.
En Ile-de-France. Et Diane Rousseau, qui est responsable de l'offre chez Scolarest et nutritionniste de formation. C'est un peu elle qui fait les menus hein, pour les écoles avec, en collaboration avec les chefs. D'ailleurs, je vous ai vu hausser les sourcils tout à l'heure quand j'entendais Rodrigo Arenas stigmatiser un petit peu la profession en disant ils ne savent pas faire. Alors, c'est vrai que parfois, ils ne savent pas faire. Mais on va en parler également. Je voudrais commencer par demander à Éric Birlouez, quelle est la place de la viande dans notre histoire, dans l'histoire de l'alimentation? Ça a été longtemps un statut symbole, un symbole de statut social.
Oh oui, complètement. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que si on remonte aux origines de l'humanité, eh bien, nous sommes des omnivores, donc des mangeurs de viande, et les hommes préhistoriques se sont mis à manger de plus en plus de viande parce qu'ils y trouvaient un intérêt. Et quand l'élevage est apparu, il y a à peu près 10 000 ans, eh bien la viande est devenue justement ce que vous dites, un statut social, parce que pour nourrir une population en croissance, eh bien, il n'y avait rien de mieux, c'est-à-dire de moins coûteux et de plus rapide que des céréales, que des légumineuses. Oui. Et la viande était devenue du coup l'aliment emblématique du puissant. Et on le voit aujourd'hui, les pauvres, quand ils accèdent à un pouvoir d'achat supérieur, ils n'ont qu'une obsession, c'est de manger de la viande, comme les riches. On le voit en Chine, on le voit au Brésil, on le voit même en Inde, où ils ne sont plus tous végétariens. Et en fait, le changement, c'est après les années 50, oui. Donc après la deuxième guerre, enfin dans les années 50, oui, après ça. La Deuxième Guerre mondiale, c'est ce que j'appelle l'embellie carnée, c'est-à-dire qu'en France, pendant les Trente Glorieuses, on se met à manger beaucoup de viande. Pourquoi ? Parce que le pouvoir d'achat de tout le monde augmente. Et encore une fois, la viande est extrêmement convoitée.
Oui, parce
mais
et,
ça ne dure
pas
longtemps.
Le corollaire, c'est que la viande, c'est cher.
Et oui.
Si on dit le pouvoir d'achat augmente et qu'on mange plus de viande, c'est parce que la viande est un aliment
évidemment.
Cher.
Et c'est un aliment qui est incarné, effectivement, c'est le cas de le dire d'ailleurs, la richesse, mais aussi la puissance, la force physique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le cas de la France, dès 1980, c'est-à-dire ça fait 40 ans quand même, on commence à voir une diminution de la consommation de viande rouge. Je parle bien de la viande rouge, qui ne diminue pas seulement depuis 2 ou 3 ans, parce qu'il y a eu les vidéos de L214 sur la souffrance animale,
bien sûr,
etc. Donc on a déjà ça, et dans les années 90, c'est l'ensemble des produits carnés qui, globalement, se met à diminuer. Alors il y a des raisons, je pourrais revenir là-dessus si vous souhaitez, qui expliquent ça. Et enfin, pour terminer, dans la période récente, de nouvelles raisons sont apparues. On a évoqué l'environnement, la souffrance animale, et ces nouvelles raisons ne font qu'accélérer le déclin de la viande. Ceci dit, je terminerai en disant que les Français ne basculent, mais pas du tout massivement, dans le végétarisme. Les dernières enquêtes montrent qu'il y a toujours aujourd'hui au mieux 4%, mais c'est un maximum, de végétariens. Je ne parle pas des véganes, qui représentent moins de 1% de la population. En revanche, la tendance, c'est diminuer sa consommation de viande, manger moins, et justement, c'est là où on en revient à l'aspect économique, c'est parfois manger moins de viande pour manger mieux, c'est-à-dire nouvelles exigences.
Le moins mais mieux qui est devenu un petit peu l'étendard des gens qui ont une conscience alimentaire et écologique autour de l'alimentation. Alors, Laurent Gaillard, il vous écoute avec beaucoup d'attention, parce que quand vous dites la viande diminue dans notre alimentation, Laurent Gaillard, je pense qu'il se dit ça diminue peut-être, mais pas assez vite, vraiment pas assez vite.
Alors oui, effectivement, si on rebondit sur la question de la viande et son impact environnemental, pour bien savoir donc le secteur de l'élevage à lui seul produit autant de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre, que le secteur des transports. C'est-à-dire on est à 14,5. Avec la particularité suivante, c'est que ces gaz à effet de serre sont principalement du méthane, issu effectivement de l'éruption des ruminants, et du protoxyde d'azote des engrais. Ce méthane dont on parle a un pouvoir réchauffant global par rapport au CO2 de 25, mais si sa durée de vie étant courte dans l'atmosphère, c'est-à-dire 10 ou 20 ans, on passe à 80.
Ah
et
oui.
Le protoxyde d'azote, c'est 298 fois supérieur à celui du CO2. Donc, c'est un des postes principaux d'émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture en elle-même, c'est 20%, 14,5% donc pour l'élevage. Et si on y rajoute la déforestation qui représente 80% effectivement pour le secteur agricole. Donc, si on réimpute ce budget-là et qu'on le reventile sur les émissions de gaz à effet de serre, on est à peu près à 18% minimum, strict minimum pour l'élevage.
Ce que vous êtes en train de nous dire, Laurent Gaillard, si je comprends bien, c'est qu'au fond, on a toujours l'impression que c'est une question d'impact sur la santé, la consommation de viande. C'est vrai que la consommation de viande, elle apporte plus de gras et de mauvais gras que les végétaux, hein, par définition. Mais là, c'est vraiment un enjeu écologique.
Alors, il n'y a pas que ça. Si, par exemple, on prend l'occupation des sols, si jamais vous retirez les calottes polaires et donc vous intéressez aux surfaces des terres émergées, on s'aperçoit qu'un tiers de cette surface, un tiers, est consacré à l'élevage, ce qui représente au niveau mondial à peu près 80% des terres agricoles. Et ça nous fournira 37% de nos protéines et 18% de nos calories.
Et à la culture, donc, par rapport à l'élevage ?
La culture, c'est à peu près la moitié. Enfin, je dirais, il y a 12% qui reste simplement sur l'agriculture. Mais ce qu'il faut bien se représenter, c'est qu'effectivement, au niveau mondial, quasiment la moitié des céréales produites sont destinées à l'élevage. Mmh. Et qu'il faut en moyenne 10 calories, si vous prenez un kilo de bœuf, c'est 10 calories végétales pour une calorie animale. Si on est sur le porc, c'est plutôt du 7. Et le poulet, la volaille, à peu près 3.
Et on n'évoque pas le problème de l'eau, hein, qui est un vrai problème. Hein.
Un gros problème. Et là, si on prend par exemple effectivement l'élevage, il faut bien comprendre c'est qu'on a un élevage qui est essentiellement un élevage intensif. C'est-à-dire qu'en France, ça représente 80% de l'élevage. 95% de nos porcs sont élevés sur des caillebotis. Mmh. 83% de nos poulets de chair sont dans des hangars. 68% de nos poules pondeuses. Mmh. Ce que ça veut dire, c'est que pour nourrir ces animaux-là, on doit avoir recours non seulement à des céréales qu'on produit donc en France, mais principalement de l'étranger, notamment ce fameux soja brésilien,
oui,
dont on est quand même en Europe le deuxième importateur mondial derrière la Chine. Nous, en France, c'est 3,5 millions de tonnes qui y sont destinées, dont 2 millions de tonnes de soja brésilien. C'est-à-dire que chaque Français a sur sa tête une empreinte dite forêt de 352 mètres carrés.
Et 50... Ah, ça, c'est ce qu'on a éradiqué dans la forêt amazonienne.
Absolument, rien qu'en consommant, rien qu'indirectement en mangeant des produits animaux. Et par exemple, ces fameux poulets de chair maintenant qui prennent 2 kilos en 5 semaines, hein, qui sont enlevés dans des hangars et qui représentent l'écrasante majorité de notre consommation, cette volaille-là reçoit 50% du soja brésilien lui est destiné. 24% pour les porcs, 16% pour les vaches laitières et 7% pour les vaches dites allaitantes, c'est-à-dire de race à viande, le reste pour le poisson. Donc quand on mange du poulet, on mange de la forêt amazonienne. Il faut bien le savoir.
Donc, on mange végétarien, alors. On mange du végétal.
Alors, il va falloir diminuer drastiquement notre consommation de viande. Mais quand on parle de drastique, il faut bien comprendre quelque chose. Drastique, c'est-à-dire que par rapport à la consommation mondiale de viande, qui est de 40 kilos, il va falloir la manger la moitié moins. Il va falloir qu'on descende, nous, à une vingtaine de kilos.
Alors qu'on est à 86.
Mmh. Donc,
Éric Birlouet, est-ce que ça a toujours été le cas au cours de notre histoire? Est-ce qu'on a toujours mangé autant de viande? Non.
Alors voilà, au début très peu pour la grande majorité de la population.
Parce que c'est
pendant
cher.
Les 30 Glorieuses, effectivement, il y a une augmentation assez importante de la consommation de viande. Il y a cette diminution dont je parle. Alors effectivement, on peut considérer qu'on est loin encore du compte. Je voulais juste revenir, puisque vous donnez beaucoup de chiffres. Bien sûr, je ne vais pas nier que l'élevage est un émetteur de gaz à effet de serre. Mais d'abord, il y a élevage et élevage, donc il faut vraiment distinguer les choses. Quand vous prenons quand même un cas un peu qui nous concerne,
concret,
en France,
oui.
L'élevage est aussi le seul secteur qui, là je parle de l'élevage des ruminants sur les prairies, va compenser en partie, pas en totalité, les émissions de gaz à effet de serre. Et l'autre chose, et c'est vrai que c'est un chiffre qu'on entend souvent, mais qui est faux malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, c'est quand on dit que l'élevage produit autant de gaz à effet de serre que les transports. 14,5% au niveau mondial, vous avez raison, la FAO l'a recalculé, au début elle disait 18%. Le problème, c'est que le mode de calcul a été différent.
Ah oui,
dans le cas des transports, on a pris en compte uniquement les émissions de gaz à effet de serre par les véhicules en circulation, point barre, alors que quand on a fait le même calcul pour l'élevage, on a tout pris en compte, c'est-à-dire depuis les champs jusqu'à ce qui arrive dans l'assiette. Donc ça n'est pas pour nier le fait que, évidemment, l'élevage est un émetteur de gaz à effet de serre, mais quand on fait des comparaisons, eh bien, en fait, il faut les faire toutes choses égales par ailleurs et avec les mêmes outils.
Alors, pour rebondir là-dessus, si on prend effectivement la transformation alimentaire qui suit les 20% et la déforestation, on passe à 30% sur ce secteur alimentaire. Donc, si on prenait vraiment tout le secteur alimentaire, là, on parle de 30% d'émissions de gaz à effet de serre.
Mais là, on parlait de l'élevage.
Donc, l'élevage en lui seul, effectivement, vous avez raison de le mentionner, le CO2 est pris simplement au niveau des pots d'échappement. Et pour la filière élevage, toute la production
voilà,
est prise en
compte. C'est ça que je voulais dire.
On va pas se battre sur les chiffres et puis ça devient un tout petit peu technique. J'aimerais qu'on sache savoir comment on peut appliquer simplement cette mesure à nos écoles, parce que globalement, on sent, même si on n'a pas les chiffres, que c'est tout de même mieux de manger un peu plus de légumes et un peu moins de viande. Et ça commence évidemment par l'éducation, parce que, comme l'a dit une certaine pub, si on commence tôt, on le sent moins passer qu'à nos âges, évidemment. Alors, Diane Rousseau, vous qui êtes au contact des restaurateurs, des restaurants scolaires, des chefs qui travaillent avec vous, comment est-ce que on peut simplement ne plus donner de viande? Il y a deux voies qui s'ouvrent à nous, et c'est aussi le problème, c'est que soit on décide de mettre des substituts de viande, des fausses viandes, et c'est un peu ce qui est stigmatisé par l'ensemble de l'opinion publique, hein, parce que oui, on peut être végétarien, mais alors il ne faut pas rechercher à manger. Moi, je dis souvent, je préfère qu'on donne une salade de lentilles à mes enfants qu'un steak de soja, enfin qu'un steak à sans les soja. Et vous, vous avez ces deux possibilités. Vers quoi vous vous orientez, vous, en général?
Alors nous, on s'oriente effectivement plus vers des légumineuses et des céréales de qualité, on va dire, parce qu'effectivement, on l'a dit, la viande coûte plus cher. Donc ce qu'on veut faire, c'est remettre un peu de budget dans la partie légumes et légumineuses et céréales. Donc ça, c'est important. Je voulais aussi revenir sur la viande. On ne va pas supprimer la viande hein, dans nos restaurants scolaires. Ça, c'est pas la question aujourd'hui.
La viande ou le poisson. Hein,
la viande ou le poisson, effectivement. Ce qui est important de dire, c'est que on parle que de protéines quand on parle de complémentarité légumineuses, céréales, etc., et de repas végétariens. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fer. On a effectivement des légumineuses qui contiennent énormément de fer en quantité pour 100 grammes, on va dire, c'est comme ça qu'on calcule en nutrition.
Notamment les lentilles, d'ailleurs.
Notamment les lentilles. Enfin bon, toutes les légumineuses, globalement, contiennent du fer. Mais c'est un fer qui est vraiment beaucoup moins biodisponible que celui qui est contenu dans la viande rouge.
On l'assimile pas facilement.
On l'assimile beaucoup moins facilement que celui qui est dans la viande rouge, par exemple. Donc, je ne dis pas, et pareil, nous, on reste assez modérés, évidemment, sur ce sujet. On est tout à fait conscients qu'ils font consommer moins de viande et moins de protéines animales sous forme de chair, comme on le disait. Maintenant, il faut faire attention parce que chez des enfants, on préconise aussi tout de même d'avoir un peu des deux. C'est important.
Allez, on va se quitter une minute et revenir pour ce débat sur la journée végétarienne qui agite évidemment les esprits de tout le monde. Hein. On est tous concernés, on sait qu'on consomme pas toujours très bien, qu'il faut changer nos comportements. Si on peut aider nos enfants à avaler la pilule, oui, parce qu'il faut l'avaler parfois, eh bien on va trouver des solutions. Allez, à tout de suite.
Metro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Allez, de retour Place du Marché où ça discute, on se pose la question avec mes invités autour de la table de savoir si cette mesure qui vise à instaurer une journée sans viande à l'école est bénéfique. Alors bénéfique pour nos enfants sûrement, bénéfique pour les parents, je ne sais pas, et pour la planète, c'est encore à voir. Ça discute, il y a du pour, il y a du contre, mais l'important c'est qu'il y ait débat. Autour de cette table, j'ai toujours Diane Rousseau qui est nutritionniste et responsable de l'offre chez Scolares, qui est un acteur évidemment de la restauration scolaire, très présent notamment dans les Yvelines, puisque Laurent Gaillard, qui est coordinateur de collectif Cantine Verte 78, connaît bien, puisque c'est leur prestataire, hein, comment dire, c'est eux qui font les repas pour les enfants de sa commune. Et puis j'ai avec moi Éric Birlouez, qui est sociologue spécialiste de l'alimentation. Éric, on entend beaucoup de choses en fait. Hein. On entend des choses qui sont un peu inquiétantes, parce que on l'a compris à travers ce que vous avez dit tout à l'heure, la viande, elle est aussi constitutive de notre culture, et notamment de notre culture à table qui est si importante en France. D'ailleurs, beaucoup plus que les Italiens, beaucoup plus que les Espagnols, le repas se fait autour de la pièce de rôti ou de la pièce de viande, hein, depuis le Moyen-Âge.
Oui, et d'ailleurs pour preuve, c'est qu'on continue à parler d'accompagnement ou de garniture, alors que vous avez raison. Dans d'autres cultures, la viande, c'est un petit morceau de viande, et le cœur du repas, ce sont des végétaux, donc des légumes, des céréales, des légumineuses, etc. Dans notre culture alimentaire française, c'est vrai que la viande a une place particulière, c'est le cœur du repas. Et on parlait tout à l'heure de l'inertie des comportements des mères qui disent « je ne suis pas au courant, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas le faire », enfin de certains mères en tout cas. Mais il y a aussi une grande inertie des comportements alimentaires.
Bien sûr
qu'il y a des gens qui, du jour au lendemain, ils prennent conscience de quelque chose et ils se mettent à ne plus manger.
Ah non, mais attendez, on le sait quand on se met au régime. Hein.
Mais
le jour
quand
où
même,
il faut changer ses habitudes alimentaires, c'est tout un
problème.
C'est
très, et c'est pour ça que je crois que ce qui est vraiment important, c'est d'accompagner les gens dans une transition alimentaire qui est évidemment nécessaire, mais en même temps, je dirais, sans les montrer du doigt, sans les stigmatiser, sans les culpabiliser. Et des fois, c'est un petit peu ça que l'on peut entendre. C'est-à-dire, voilà, il faut bien prendre conscience de là où on en est, d'un point de vue culturel, de là où on veut aller, mais qui est cet accompagnement qui passe effectivement par le plus jeune âge dans les écoles.
Alors, je sais que vous n'êtes pas paléontologue, mais je sais que cela vous intéresse également. Lorsqu'on lit le livre Sapiens de Harari, évidemment, on voit que Néandertal, par exemple, tout d'un coup, par sa consommation de viande, acquiert un cerveau plus gros, des capacités musculaires peut-être différentes. Et moi, je ne veux pas faire de prosélytisme pour la viande. Mais en tout cas, la viande, oui, elle apporte de l'énergie une fois qu'elle est cuite.
En fait, c'est une grande
cuisson.
C'est la cuisson.
Il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Parce qu'effectivement, dès les années 60, il y a eu des spécialistes de la préhistoire qui ont dit c'est parce que l'homme a mangé de la viande en quantité au temps préhistorique que son cerveau s'est développé. Mais aujourd'hui, les préhistoriens disent « mais c'est l'histoire de l'œuf et de la poule
ouais. ».
C'est peut-être parce qu'il avait un gros cerveau qu'il
a été capable de mieux chasser
et d'être plus efficace.
Laurent Gaillard.
Et il y a aussi la cuisson, effectivement.
C'est la cuisson
qui rend disponible en fait l'énergie.
C'est une hypothèse.
Absolument. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que le cerveau carbure aux glucides.
Oui,
donc, protéine n'a jamais été un aliment de prédiction pour faire fonctionner le cerveau.
C'est plutôt le blé.
Donc,
il
faut être prudent là-dessus. Effectivement, la question de savoir si nous sommes des omnivores ou pas, elle ne se pose pas. Nous sommes des omnivores. Au moins, les choses sont parfaitement claires.
Bien
Maintenant,
sûr.
Est-ce qu'effectivement, les consommations de viande qui sont les nôtres sont compatibles avec la bonne santé et celui de la planète ? Les choses sont très claires aussi. Non.
Voilà. Moi, je pense, juste pour terminer là-dessus, moi, je pense effectivement que la viande est un aliment dont on peut se passer, il n'y a aucun problème, mais ce n'est pas pour autant un poison. Alors la question pour moi, ce n'est pas « faut-il arrêter de manger de la viande ?» mais ça, c'est souvent les titres des journaux,
oui,
etc.
Oui,
c'est plutôt « quel
toujours.
Type de viande voulons-nous manger et dans quelle quantité ?» et pas d'être dans le binaire, le tout ou rien. La viande est un aliment, parmi les autres, ça participe de l'équilibre alimentaire des omnivores.
Laurent Gaillard, une petite question. Si vous parliez tout à l'heure de la quantité de viande qui devrait passer, allez, je schématise, de 80 à 20.
Oui. Hein,
donc, divisé par 4, sa consommation de viande en moyenne.
Oui.
Si c'était le cas, combien est-ce qu'on mangerait de repas carnés dans la semaine ?
Il faut s'imaginer ça comme une portion, en fait. Effectivement, représentez-vous un steak qui fait à peu près 120 grammes, vous le divisez par 4. Donc ça représenterait à peu près une consommation de 70 grammes de produits carnés, tout confondu, en mélangeant, en y ajoutant. Alors, l'université d'Harvard avait dit 10 grammes de porc en équivalent 10 grammes de bœuf, 50 de poulet et quelques œufs.
Oui.
Voilà. Et diminuer aussi drastiquement la consommation de produits laitiers, parce que là aussi, on a un gros problème. Hein. Les vaches laitières, je veux dire, ce qui deviendront d'ailleurs l'essentiel de la viande mangée bovine en France, c'est pas de la race à viande, hein, c'est de la vache dite de Holstein, exactement.
Enfin, mixte en tout cas.
Une fois que la vache a terminé sa carrière de laitière, elle part à la réforme, et donc effectivement, c'est ça qu'on consomme essentiellement. Mais je crois que pour rebondir sur ce que disait Eric, on a besoin de changer de paradigme et de développer une culture que j'appellerais peut-être une culture végé. C'est-à-dire que tous autant que nous sommes, il va falloir apprendre à végétaliser notre alimentation de façon bien plus importante, qui devra reposer sur des végétaux bruts. Et par rapport à ça, que certains décident de conserver effectivement certains apports de produits animaux de qualité, compatible avec effectivement un développement durable autant que faire se peut sur des élevages respectueux du bien-être animal. Là, on peut tout à fait discuter. Ensuite, libre à chacun de pouvoir basculer sur le végétarisme, voire le végétalisme ou le véganisme, pour plus que toutes les informations soient des informations honnêtes et que l'individu puisse se faire son choix indépendant et puisse faire son choix en connaissance de cause.
Oui, mais Laurent Gaillard, c'est très difficile d'être indépendant et notamment des lobbies qui sont derrière chaque secteur agroalimentaire d'ailleurs. Le véganisme, on dit souvent derrière, il y a toutes ces néotechnologies agroalimentaires.
Les GAFA, oui.
Qui veulent mettre en place des substituts à la viande avec des milliards de... Voilà, bon alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors moi, je vais vous dire, franchement, étant vegan moi-même, donc je peux un petit peu parler de ça, ces nouvelles technologies, elles ont un avantage pour ceux qui voudraient en manger, c'est-à-dire de produire de la viande en émettant beaucoup moins de gaz à effet
D'accord.
de serre et en épuisant beaucoup moins de ressources.
D'accord.
Donc c'est absolument pas ça qui va menacer notre élevage. Je veux dire qu'il faut vraiment être parfaitement clair. Je veux dire, je vois pas très bien où est la menace de ce côté-là. Donc que nos éleveurs soient rassurés, je veux dire que tout ce qu'on doit, effectivement, là où je crois on peut tous s'entendre, c'est que l'élevage industriel est un poison qui effectivement fait peser des menaces très sérieuses Là, on l'a vu sur les épuisements des ressources, hein, mais on peut parler aussi d'antibiorésistance, de grève porcine, de grève...
Donc... Mais ce que vous dites, Laurent, c'est au fond, soyez vegan, mais pas tout le monde.
Je ne dis pas soyez vegan, surtout je dis soyez des si vous êtes omnivore, soyez un omnivore consciencieux.
Flexitarien, c'est le nouveau mot,
ça irait très bien.
On fait attention à ce qu'on mange.
La protéine, effectivement, on mange, Greenpeace a rendu dans son rapport, on mange entre 2 et 4 fois trop de protéines dans nos cantines, essentiellement sous forme de protéines animales. Donc encore une fois, il faudra qu'on développe, tous autant que nous sommes, une forme de culture végé.
Bon, Diane Rousseau, je vous vois écouter avec beaucoup d'intérêt et je sais que vous avez des tas de choses à dire. Parce que vous êtes là pour nous expliquer comment est-ce qu'on met ça en œuvre dans les cantines. Il ne faut pas rêver. Quel est le prix moyen, le prix d'un repas dans un restaurant scolaire, une cantine ? C'est très peu, hein.
Alors, le prix moyen, je ne vais pas vous le dire, parce que franchement, ça dépend vraiment tout à fait des communes. Enfin, voilà, vous le savez, oui. Hein, on n'est pas sur les mêmes tarifs.
Mais un ordre de grandeur ?
Voilà, on va être du 3 euros, des choses comme ça.
3 euros, c'est
déjà
pas mal. Hein.
Dans l'assiette.
Oui,
voilà, parce qu'après, il y a quand même toutes les équipes, le personnel, etc.
Bien sûr.
Enfin, voilà, on est quand même...
De produits.
Maintenant, on peut aller effectivement plus bas ou plus haut, hein, en fonction des établissements. Clairement, je voulais rebondir aussi sur ce que disait Eric, parce que c'est intéressant. Nous, on est proche des enfants, on est vraiment à l'écoute des enfants. Et ce qu'ils nous disent, en fait, quand on communique pas assez bien sur le repas végétarien, c'est « mais où est la viande ?» Ils disent à leurs parents, j'ai pas eu de viande ce midi, j'ai pas eu de poisson.
J'ai pas eu mon repas, quoi.
Voilà, donc il m'a manqué quelque chose. Ils le mangent ou ils le mangent pas d'ailleurs, hein, mais c'est quelque chose qui leur manque. Donc on a besoin de communiquer énormément sur ces repas. Mm-hmm. Nous, dans nos menus référents chez Scolarest, on a commencé à les mettre en place au mois de mars l'année dernière. Mm-hmm. On n'a pas attendu la loi. Il y avait une raison, c'est parce qu'effectivement, on est aussi engagé sur ce niveau-là, sur cet axe de développement. Maintenant, c'est vrai que il faut vraiment communiquer et aux familles et aux enfants.
Oui, mais justement, moi, ce que je me demande quand je vous écoute, c'est si, au fait, cette demande, on dit, oui, les jeunes demandent de plus en plus, font attention au bien-être animal, demandent de plus en plus de végétaux dans leur alimentation. En même temps, il n'y a jamais eu autant de jeunes qui vont manger des hamburgers dans les fast-foods. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, en fait, une dichotomie entre une population un peu urbaine bobo, j'ai envie de le dire, en tout cas les enfants de gens éduqués, urbains, avec des revenus importants, et en fait, toutes les zones rurales où ça passe un petit peu à côté parce qu'on a l'impression de vivre... C'est un peu... ça donne l'impression que les urbains sont tellement en mal de campagne qu'ils se donnent bonne conscience en étant plus végétalistes que les gens de la campagne qui vivent dedans, en définitive, Laurent Gaillard. Vous n'avez pas ce sentiment ?
Alors, la problématique des jeunes, et effectivement, beaucoup sont sensibilisés, et c'est clair, hein, sur cette problématique du menu végétarien, et beaucoup passent à un régime beaucoup plus végétal, voire végétalien ou vegan. Maintenant, où est-ce qu'on en est avec ça ? D'autres vont consommer beaucoup de kebabs, vont aller dans les fast-foods, une autre forme de problème. Et c'est là où, justement, les produits similicarnés peuvent avoir un certain intérêt. C'est-à-dire que là encore, je me positionne sur la problématique environnementale, c'est-à-dire en proposant des produits de substitution qui soient gustativement corrects, les gens auront moins l'effort pour se dire « Ok, je vais faire du bien à l'environnement, je vais faire du bien à la planète. » Donc, ils prendront cette option-là s'ils s'y retrouvent gustativement.
Ouais, enfin, moi, ça
mais
me...
c'est uniquement dans ce cadre, je parle bien de la restauration rapide.
C'est pas enchanteur, hein.
Non, c'est pas.
Est-ce que dans la restauration scolaire, chez Scolarest, vous faites ça, vous ? Est-ce que vous mettez des substituts de viande ?
Ça nous arrive. Voilà, je vais pas dire que ça nous arrive pas.
Demande des communes, en général, ou des
parfois,
établissements ?
C'est aussi, pas forcément, en fait, mais c'est vrai que c'est des choses qui existent. Et c'est les premières choses qu'on a commencé à mettre dans les repas. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est faire différemment. Justement, on veut tendre vers le goût des légumineuses, le goût des céréales, et avoir des recettes qui soient gustativement intéressantes et qu'on comprenne vraiment le goût de chaque aliment. Et avoir les légumes et les fruits, etc. dans l'alimentation. C'est quelque chose qu'on ne... On ne veut pas effectivement tendre vers ces aliments-là parce qu'il nous semble difficile de communiquer sur quelque chose qui est ressemblant gustativement parlant, mais qui n'est pas.
Il n'y a pas une belle histoire à raconter.
Il n'y a pas de belle histoire et l'enfant ne va pas comprendre. Ce qu'ils mangent. Et au final, on est assez proche des enfants. On leur a demandé ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Les enfants, finalement, ils aiment beaucoup de choses. Donc on a toujours l'impression, alors oui, le burger frites, ils adorent, oui, le kebab, ils adorent, mais ils aiment aussi les brocolis, ils aiment aussi les pâtes, ils aiment aussi les lentilles. Mm-hmm. Donc, en fait,
ils sont omnivores par nature.
Ils sont omnivores par nature, tout à fait. Mais ils aiment tout.
Voilà, ils aiment tout. Nous, on n'aime pas tout, mais on aime bien ce qu'on entend ici à propos de ce repas végétarien à l'école, ce repas hebdomadaire. Pourtant, hein, si on n'arrive pas une fois dans la semaine à faire un repas végétarien, où allons-nous, mes amis ? Ben, on va se retrouver dans une seconde et on en reparle encore.
Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente...
Sud Radio, Place du Marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud.
Ah mes amis, même pendant la publicité, la discussion continue. Hein. Pendant les travaux, le magasin est ouvert et je peux vous dire que le débat est animé ici dans le studio de Sud Radio parce qu'on parle de ce repas végétarien hebdomadaire. Ça semble rien et pourtant, dans nos habitudes alimentaires, Éric Birlouez, vous qui êtes sociologue, spécialiste de l'alimentation, vous n'avez pas le sentiment, parce que vous sentez l'époque, hein, c'est votre travail aussi, à regarder nos congénères, que le légume est de plus en plus valorisé, je dirais revalorisé dans la cuisine, chez les cuisiniers, chez les metteurs en œuvre.
Mais complètement. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de la viande comme marqueur social, et on voit que le marqueur social s'est inversé.
C'est-à-dire hier, ce qui était
le must, c'était la viande. Et les légumes, d'ailleurs, étaient méprisés par les élites sociales au Moyen-Âge. On ne mange pas ces produits qui viennent de la terre, qui sont les produits des paysans.
C'était pour les serfs.
Et voilà. Et aujourd'hui, évidemment, c'est l'inverse. Et c'est intéressant parce qu'on parlait des jeunes tout à l'heure. Les plus gros consommateurs de viande en France, ce sont les 18-24 ans, aujourd'hui. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'ils mangent des burgers, des kebabs, des lasagnes avec de la viande, des sandwichs, etc., etc. Et parmi eux, c'est évidemment d'abord les jeunes des classes modestes, des classes populaires. Mm-hmm. C'est-à-dire que tous les jeunes ne vivent pas dans les beaux quartiers et n'ont pas cette vision du légume comme quelque chose de... C'est la distinction sociale dont parlait Bourdieu, finalement. C'est aussi ça, au-delà évidemment des enjeux d'environnement,
Bien sûr,
etc.
Bien sûr.
Mais on ne peut pas nier, évidemment, cette dimension-là.
Alors, Laurent Gaillard, je sais que vous militez vraiment pour le végétalisme. Je dirais que c'est votre conviction personnelle. Comment est-ce qu'on peut faire, on va dire, coïncider des convictions aussi fortes, moi je dirais pas extrêmes, mais en tout cas radicales, avec le vivre ensemble à l'école dont vous vous occupez, hein, ce collectif?
Alors déjà, effectivement, la position extrême, moi, du végétalisme ou du véganisme, bien, je la rejette.
Alors, je dirais végétalisme non, mais véganisme oui. Ouais, c'est un peu extrême quand même.
Pour moi, ce qui est extrême, c'est effectivement ce système de production de l'élevage comme on le connaît maintenant, qui visiblement fait peser des menaces qui ne sont plus du tout compatibles avec un futur radio.
Mais là, l'élevage intensif et l'élevage extensif.
Je crois que j'ai été tout à fait honnête en parlant effectivement qu'il n'y avait absolument aucune espèce de problème pour moi, en ce que je n'ai pas de problème avec l'élevage dit extensif dans... Tout en, si on garde en mémoire qu'il représente qu'une infime minorité de notre production et que jamais cette production ne pourra compenser effectivement la masse de l'industrie, de l'élevage intensif, alors on est d'accord.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est plutôt que de faire plus d'élevage extensif, autant supprimer la viande, autant supprimer l'élevage ?
Il faut supprimer cet élevage intensif. Ça, c'est clair. Après... on aura effectivement des petits producteurs, des circuits courts, des gens qui feront un travail tout à fait correct.
Mais
reste le problème éthique de l'abattage.
Ça sera pour les happy few, vous le
savez. Mais ce sera pour les happy few. Hein, mais...
C'est-à-dire pour des gens qui auront les moyens de se payer de la très belle viande.
On ne mangera plus que 20 kilos de viande. Parce que pour rebondir sur ce que disait Eric tout à l'heure, la viande est devenue un produit pas cher. La mauvaise viande. Et elle est devenue un produit pas cher. Pourquoi ? Parce qu'en plus, elle est lourdement subventionnée.
Mais vous savez que les gens regardent leur porte-monnaie avant de regarder parfois la qualité du produit
qu'ils
achètent.
Donc on se trouve avec un paradoxe où effectivement les légumes coûtent quasiment le prix, peuvent coûter pas le même prix que la viande, mais c'est un prix
qui est conséquent. C'est important.
Donc effectivement, et je crois que pour rebondir sur ce que disait
Diane Rousseau,
c'est qu'il est impératif qu'à l'école, on remette les protéines végétales au cœur de l'assiette quand on parle du menu végétarien. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'on oublie, à mon avis, tout ce que sont les simili carnés et qu'on redécouvre des plats comme le riz lentille, les couscous de légumes, toute cette cuisine-là.
Je suis d'accord avec vous, et là, je vais me tourner vers Diane, qui est un peu notre faiseuse de miracles, hein, parce qu'on va vous demander de nourrir, effectivement, les enfants. Et ils sont difficiles, les enfants. Hein, et je sais que, pratiquement, on jette 50% de ce qui est servi dans les cantines. Hein, je ne sais plus le chiffre exact, c'est monstrueux, ce qui prouve que ils sont pas prêts à manger n'importe quoi et tout. Alors Diane, vraiment très pratiquement, aujourd'hui, si on dit il y a une journée végétarienne, donc des repas à la cantine végétarien, que vont manger les enfants. On le sait bien, hein, en général, le rêve de l'enfant, c'est le steak frites, hein, on va dire globalement, ou des pâtes avec de la bolognaise, enfin en tout cas des régimes carnés qui correspondent à leur alimentation. Aujourd'hui, on supprime la viande. On leur donne quoi ? Vous allez leur donner quoi, vous, chez Scolarès ?
Alors, ce qu'on leur donne, c'est simplement des plats végétariens, donc sans viande, sans poisson. Ça veut dire qu'on a aussi des plats à base d'œufs.
Oui.
Qu'ils adorent. Alors, ça peut être
des
flans, etc.,
aussi, hein,
des omelettes.
Enfin, voilà. Des gratins, donc, avec
exactement.
Du fromage,
voilà.
On peut pas tout de suite supprimer.
Et avec des produits laitiers, donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, ça, ils adorent aussi. Et en fait, les associations céréales légumineuses, mais comme le disait Laurent, les couscous végétariens, les paellas végétariennes, les chilis sin carne, finalement, ça passe très très bien.
Chili sin carne, c'est le chili sin carne.
Exactement, le chili sin viande.
On remplace par quoi, Diane ?
Eh ben, en fait, on le remplace pas forcément, puisqu'en fait, il y a des haricots rouges et il y a du riz, donc avec les légumes,
etc. Donc, riz, haricots rouges et la sauce tomate épicée.
Voilà, et on compense avec les quantités en fait de céréales et de légumineuses pour qu'il y ait un bon apport protéique. Mais finalement, en fait, tous ces produits-là, ils les aiment.
Vous voulez dire que vous êtes en train de les flouer un petit peu. Vous leur servez un chili sin carne en laissant croire que c'est un chili con carne, quoi.
Alors, ils sont bien au courant que normalement, ce jour-là, c'est un menu végétarien. Ça, c'est ce qu'on essaye vraiment de communiquer pour qu'ils comprennent, justement, qu'il n'y a pas la petite viande qui est effectivement sur le repas. Donc, non, on ne les floue pas. Mais ça, c'est eux ce qu'ils nous demandent. On fait aussi des concours de recettes avec les enfants.
Vous êtes participative.
Oui. Donc, cette année, on a choisi un thème qui était le menu végétarien. D'ailleurs, vos écoles ont participé à ce concours. Et on demande aux enfants de CE2, CM1 et CM2 de nous créer une recette. Et là, c'était... on voulait aller vers le végétarien. Donc, une recette végétarienne. Mais on a eu des tonnes de réponses.
Alors,
on a eu 400
Gaillard,
réponses sur l'Île-de-France.
Vous avez regardé ça d'un œil extrêmement attendri, j'imagine, et intéressé. Qu'est-ce qu'il en est sorti, honnêtement ? Qu'est-ce qui vous a frappé dans les propositions des gamins ?
Je crois que les enfants sont demandeurs, sont curieux déjà de toute façon pour découvrir d'autres goûts, d'autres saveurs, et je crois qu'effectivement il ne faut pas hésiter à leur proposer des choses différentes.
Ils voyagent quand même de plus en plus, ils sont ouverts à la world cuisine, donc je crois que les épices, les aromates, les fruits et légumes d'ailleurs mettent un petit peu de beurre dans les épinards, pour prendre une analogie qui n'est pas très heureuse d'ailleurs.
Et puis je crois qu'il va, comme disait Diane aussi, c'est un bouleversement culturel, il va falloir faire un accompagnement pédagogique très très sérieux par rapport à ça. Il va falloir accompagner cette mesure pour qu'elle puisse effectivement être un succès. Et moi, là où vraiment où je voudrais insister, c'est que les gens se disent avec ce menu végétarien, on mange un petit peu ce qu'on veut. Non, on mange plus ce qu'on veut. Ça, je crois qu'il faut bien comprendre, ça, c'est terminé. Dire je mange ce que je veux, non.
Vous voulez nous mettre au régime, quoi. On est obligé de se mettre au régime parce que la planète n'est pas en bonne santé, c'est ça ?
Si la planète n'est pas en bonne santé, c'est nous qui n'allons pas être en bonne santé très longtemps derrière. On a une communauté de destin avec l'environnement qui nous entoure, les animaux qui nous entourent. Il faut bien en prendre conscience et qu'effectivement, par rapport à ça, ce n'est plus une question de choix. Par contre, effectivement, il y a la place pour avoir une cuisine heureuse et joyeuse, qu'elle soit végétarienne ou qu'elle ne le soit pas. Et pourvu que tout le monde est bien effectivement en tête qu'il va falloir diminuer très sérieusement notre consommation de produits carnés.
Tout le monde va manger de la pizza, les enfants adorent la pizza, si on nous laisse mettre de la mozzarella dessus. Je sais que Laurent, il ne veut pas, il mettra du tofu à la place de la mozzarella, mais bon, on peut. Diane, l'exemple type, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, l'exemple type de plat, parce que moi je me dis, une journée sans viande, c'est une journée de pâtes. Mais vous avez, comme vous l'avez dit, plein de solutions. Et ils sont... vous l'observez dans les écoles ? Ça a été mis en place déjà ?
Ah oui, ça a été mis en place. Oui, et ça a été mis en place depuis plusieurs années sur certaines communes, notamment.
Ouais.
Donc parfois, c'est un choix supplémentaire, comme on le disait, puisqu'on doit proposer en fait, à tous les enfants ce menu végétarien, mais ça peut être un choix supplémentaire. Et l'enfant choisit s'il va manger sa viande ou son plat végétarien. Alors le menu type, ça va être... Alors les entrées, généralement, comportent peu de protéines animales, donc on va avoir... Alors nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir du choix aussi pour les enfants, pour qu'ils consomment ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a un point important que vous avez souligné, c'est qu'il y a énormément de gaspillage alimentaire. Nous, on travaille énormément sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, et c'est pour ça qu'on leur fait travailler sur des recettes. On les fait travailler sur des recettes, et ces recettes, les lasagnes aux légumes qu'ils nous ont données, par exemple, ou des flans de tomates ou des tomates farcies... Exactement. Mais vous savez que ça fonctionne super bien. Parce qu'on dit, c'est la recette de la petite Émilie de l'école en CM2. On les responsabilise et ils le font et ils les mangent. Des associations de saveurs qu'on n'imaginerait pas leur faire goûter. Et finalement, quand c'est eux qui cuisinent, quand on leur donne des cours et des ateliers de cuisine, c'est eux qui les font, c'est eux qui les ont trouvés, donc ils les consomment.
Alors, on sait que la sécurité ne l'autorise pas, mais ça serait presque bien d'avoir de temps en temps des enfants dans les cuisines, à tour de rôle, hein, dans les cuisines scolaires.
Ça existe. Ça existe. On peut le faire. Alors, pas pendant la production des repas du midi, mais effectivement, on le fait et on fait même des ateliers culinaires en dehors de la cuisine, parce que dans un environnement qui peut être un peu plus sympathique, où on leur donne des cours pour justement qu'ils comprennent et qu'ils goûtent les produits bruts et les nouvelles saveurs.
Laurent Gaillard, si on écoute ce qui se dit ici, on imagine qu'une journée végétarienne à l'école, ça ne suffira pas à changer le mode alimentaire.
Non, c'est pour ça que nous, ce qu'on prône, c'est d'avoir effectivement un jour par semaine un menu végétarien pour tous, pour qu'effectivement on puisse bâtir ce socle d'une culture, végétale. Et une option, les autres jours de la semaine, qui sera effectivement...
Oui, c'est ça, un menu alternatif. Oui, qu'on puisse choisir. Allez, je vais laisser le mot de la fin à Eric Birlouez, parce que si on veut connaître son futur, il faut connaître son passé. Vous connaissez bien notre passé. Qu'est-ce que vous voyez pour le futur? On va y arriver? On va arriver à changer notre comportement alimentaire ou ça se fera sur une longue période?
Alors, ça va se faire, j'en suis convaincu.
Je ne vous demande pas d'être une voyante. Hein.
Non, mais effectivement, avec du temps. Parce que moi, qui regarde ça depuis quand même pas mal d'années, même pas dire de décennies, je trouve que depuis 3 ou 4 ans, il y a vraiment une accélération des prises de conscience, des attitudes et parfois, bien sûr, des comportements. Alors, on est encore, évidemment, très loin du compte. On ne va jamais basculer massivement d'un style d'alimentation à un autre en l'espace de quelques années. Mais moi, ce qui me rend très confiant, c'est ce que j'entends là, c'est-à-dire en fait cette idée de, ben finalement, on accompagne les gens, mais dans une démarche qui est positive, qui est, vous l'avez dit, joyeuse, heureuse, participative, et on laisse le choix.
Et pas restrictive. Ouais.
Voilà, et on laisse le choix. On n'impose pas, et les gens d'eux-mêmes, avec la prise de conscience, feront leur chemin, mais ça prendra du temps.
Merci beaucoup. Merci Diane Rousseau d'être venue nous parler des menus de nos petits, de nos enfants. On sait que vous êtes à l'œuvre pour trouver des solutions, voilà, pour que nos enfants mangent des légumes, ce qui n'est jamais toujours très simple. Hein. Sauf chez les Garnier, où alors tout le monde mange du légume. Merci Laurent Gaillard d'être venu
avec
nous
plaisir,
voir. Et le collectif Cantine Verte 78. Mais si, merci Eric Birlouez, vous avez fait un peu Madame Irma, mais c'est bien.
Merci
Vincent. Ou Nostradamus. Hein. J'espère que les prévisions seront plus heureuses que celles de Nostradamus.
Qui faisait des confitures.
Aussi, effectivement, et sans viande, on s'en doute. Allez, la semaine prochaine, Place du Marché, on change complètement de sujet. On revient à la haute gastronomie, à la grande cuisine française, puisqu'on fêtera ensemble le cinquantenaire du guide Go et Mio avec le directeur des guides, Marc Esqueré, qui viendra nous relater cette véritable aventure et dire où en est le guide aujourd'hui et quel est son avenir. Vous restez avec nous sur Sud Radio toute la journée ou alors, si vous allez faire votre marché, allez, pour vraiment prendre de la avance sur cette journée sans viande à l'école. Aujourd'hui, on achète des légumes, rien que des légumes. Et on se retrouve dimanche prochain.
Sud Radio, Place du Marché, dimanche 10h-11h.
Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.